Donc, bonjour Laurent Laforgue.
Bonjour.
Alors, peut-être que François Lojacomo, un ancien président d'Espéranto Jeune, va peut-être nous rejoindre pour mener cette interview, vu que quand même, c'est un meilleur mathématicien que moi, on va dire, mais bon, c'est pas grave. J'aimerais, si possible, tu vas m'aider. Merci Jean, heureusement que tu es là, je sens un grand soutien. Très bien. Peut-être que les auditeurs, les auditrices ne savent pas ce que c'est que la médaille Fields. Je disais en début d'antenne que Laurent Laforgue a reçu la médaille Fields en 2002. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ?
Donc la médaille Fields est une distinction qui est attribuée tous les 4 ans à 2, 3 ou 4 mathématiciens. Donc vous voyez qu'en moyenne ça fait moins d'un lauréat par an. Cette distinction a un prestige un peu qu'on peut comparer à celui du prix Nobel, mais avec tout de même quelques différences. Premièrement, ça ne rapporte pas d'argent ou quasiment pas, enfin quelques milliers d'euros, et deuxièmement, c'est réservé à des jeunes, on peut dire.
Moins de 40 ans,
exactement. Hein. Donc, quand je l'ai reçu, j'avais 35 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39.
Oui, le temps passe, d'accord. Je suppose que cette distinction ne vous a pas été attribuée sans raison. Pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer, même si ce n'est pas forcément facile, pour quel type de travaux on a jugé opportun de vous décerner cette distinction ?
Eh bien, cette distinction m'a été attribuée pour un résultat.
Ah.
C'est-à-dire que, au moment où je l'ai reçu, je n'avais démontré qu'un théorème, un théorème qui a été considéré comme important, auquel j'ai consacré 7 années de ma vie. C'est-à-dire que pendant 7 années, j'ai cherché à résoudre ce problème. Donc, bien sûr, les choses se sont faites par étapes, c'est-à-dire que d'abord j'ai écrit un premier livre qui constituait une première étape, puis un article, puis un deuxième livre. Et voilà, au bout de 7 ans de travail, je suis arrivé à un résultat, une démonstration donc d'un résultat qui en fait était déjà prévu, hein, ce qu'en mathématiques on appelle une conjecture, c'est-à-dire quand on suppose que quelque chose est vrai, mais qu'on ne sait pas encore le démontrer. Donc il y avait cet énoncé qui, pour moi, était absolument fascinant, que j'ai essayé de démontrer pendant cette année, et finalement j'y suis arrivé. Donc maintenant, expliquer ce que c'est que cet énoncé, je crains que je ne le puisse pas. Ce sont vraiment des choses très sophistiquées. Il faut dire que pour devenir mathématicien, il faut des années d'initiation. Les mathématiques ont un aspect ésotérique.
Oui, alors qu'en fait, quand on y réfléchit bien, elles sont quand même assez utiles. Rien que le fait que les auditeurs puissent nous entendre à l'heure actuelle. J'ai compté, là, juste avant donc l'émission, une partie des concepts mathématiques qui sont nécessairement utilisés pour l'émission donc radiophonique ou pour les gens qui nous écoutent sur Internet. Le son, donc c'est comme une onde, il faut donc en faire la décomposition de Fourier. Ensuite, j'ai vu que dans les circuits donc électroniques, pour les fonctions donc de transfert, pour savoir si les ondes vont passer ou pas, on fait appel donc à des polynômes. Pour que ça soit plus facile, on fait appel aux nombres complexes. Ensuite, une fois qu'on est dans le circuit donc électronique, il y a beaucoup donc de logique, qui est tout de même une branche des mathématiques.
C'est l'algèbre de boules.
Tout à fait. Sans parler à un niveau donc plus bas, vous savez que dans toutes les choses électroniques, il y a à chaque fois donc des transistors. Et ce qu'il y a quand même à la base donc des transistors, pour découvrir donc leurs propriétés, on a bien dû faire appel donc aux théories donc du physicien Boltzmann, mais ça veut dire que forcément il y avait du calcul probabiliste derrière. Et en plus, alors là, je passe tout ce qui se passe donc, pour la transmission. Là, je peux donc même pas dire. Bon, il y a quand même beaucoup de mathématiques. Une petite question. Est-ce que vous travaillez seul, en général ?
Disons, pour ce qui me concerne, je suis un mathématicien très solitaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, je suis dans mon bureau avec en face de moi une pile de feuilles de papier, quelques stylos. Et j'écris, ou bien je n'écris pas parce que je sèche. Cela dit, d'autres mathématiciens sont moins solitaires que moi, c'est-à-dire qu'il arrive assez fréquemment que les mathématiciens écrivent un article à deux, par exemple, à trois, rarement plus. Malgré tout, la majorité des articles de mathématiques sont écrits par des personnes seules, donc avec un seul auteur, ce qui est une différence entre les mathématiques et les autres sciences. Hein, en physique, en biologie, les travaux sont beaucoup plus des travaux d'équipe. Les mathématiciens sont assez solitaires, et je suis particulièrement solitaire parmi les mathématiciens.
Alors, les mathématiciens sont assez solitaires. Cependant, ils publient aussi. Et justement, il y a quelques mois, vous aviez écrit un article dans la revue Pour la Science qui avait attiré notre attention, puisque dans cet article, si j'ai bien compris, vous défendiez l'usage du français comme langue de communication entre mathématiciens français.
Oui, et même pas seulement. Disons que ce que je faisais dans cet article, c'est évidemment un article que j'ai écrit en tant que mathématicien français, donc pour défendre l'usage du français par les mathématiciens français, mais pas seulement à l'usage des mathématiciens français. C'est-à-dire que il se trouve que l'école mathématique française est très forte, qu'elle a une grande réputation, une haute réputation internationale. Et pour cette raison, beaucoup de mathématiciens dans le monde, dans tous les pays que vous pouvez imaginer, comprennent le français et bien souvent le parlent. Donc quand on écrit aujourd'hui un article en français, on sait qu'on va pouvoir être lu, non seulement en France, mais un peu partout dans le monde, par d'autres mathématiciens. Et je voudrais beaucoup que ceci se perpétue. Et pour ça, bien sûr, il faut que les mathématiciens français continuent à écrire en français. Et je pense même que ce choix de la langue française, disons cet attachement à la langue française de la part des mathématiciens français, est l'une des sources de la force des mathématiques françaises. C'est-à-dire que il y a plusieurs facteurs qu'on peut invoquer, mais c'est tout simplement une marque de combativité. C'est-à-dire que faire le choix du français, c'est marquer que on ne se considère pas comme étant des suiveurs, qu'on est prêt à combattre, qu'on n'a pas ce souci premier d'être lu par les Américains, par exemple, on veut chercher, travailler sans rien renier de ce qu'on est, en faisant des mathématiques de manière naturelle dans la langue où on les a apprises. Donc c'est en quelque sorte se détacher de cet esprit général qui est très prégnant dans notre société aujourd'hui, qui accorde une énorme importance ou une importance première à la communication. Hein, faire le choix du français, c'est dire qu'on ne va pas chercher d'abord la communication. Hein, on écrit en français, on écrit dans une langue qui évidemment n'est pas la langue dominante dans le monde, pour chercher, pour faire avancer les mathématiques, pour chercher la vérité finalement. Autrement dit, la communication n'est pas prioritaire. Et je pense que ça, c'est un facteur de créativité.
J'aimerais poser une autre question avant que Mélène, qui nous a rejoint donc à la technique, passe peut-être un petit morceau de musique. Je voulais savoir tout de même si toutes les grandes écoles mathématiques, franchement, je ne sais pas combien dans le monde, si elles faisaient donc ce choix, c'est-à-dire de communiquer, on va dire, au moins donc en interne dans leur langue maternelle, est-ce que les mathématiques ne risqueraient pas d'y perdre du fait que, certes, les nations, on va dire, enfin les mathématiques donc nationales chercheraient chacune donc la vérité un peu donc dans son coin. Est-ce que les mathématiques ne risqueraient pas de pâtir d'un manque de synthèse en quelque sorte?
À mon avis, c'est le contraire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un mouvement général dans le monde qui effectivement accorde à l'anglais une place de plus en plus grande, et des écoles mathématiques extrêmement brillantes qui avaient l'habitude de s'exprimer et de publier dans leur propre langue, je pense en particulier à l'école russe, aujourd'hui sont passés à l'anglais. Et je pense que c'est, donc évidemment la communication est beaucoup plus facile, là elle est immédiate, mais je pense que c'est une perte pour les mathématiques mondiales. C'est-à-dire qu'à l'époque où l'école russe écrivait en russe, où les communications n'étaient pas si faciles que ça, eh bien, on faisait des mathématiques dans les pays occidentaux d'une certaine façon, et on faisait les mathématiques en Russie d'une autre façon. C'était pas exactement la même manière de faire des mathématiques. Et je trouve que les deux écoles, l'école occidentale et l'école russe, ont été toutes les deux extrêmement brillantes. Chacun suivant son chemin, mais évidemment, elle ne s'ignorait pas. C'est-à-dire que la communication finissait par passer de toute façon. Simplement, ce n'était pas une communication immédiate. Il se pouvait que des résultats attendent quelques mois ou quelques années avant d'être pleinement digérés de l'autre côté. Mais cette absence de communication immédiate permettait que vivent plusieurs écoles différentes dans le monde qui faisaient des mathématiques dans des esprits légèrement différents. Et je pense que c'était vraiment un facteur de richesse pour les mathématiques mondiales. Aujourd'hui, on a une uniformité beaucoup plus grande et concrètement, l'école russe en tant que telle a beaucoup diminué en statut, c'est-à-dire que la plupart des meilleurs mathématiciens russes aujourd'hui travaillent en Occident, en particulier aux États-Unis, mais aussi beaucoup en France. Ils écrivent dans d'autres langues que le russe et je trouve que c'est une grosse perte pour les mathématiques mondiales.
Oui, je fais une petite parenthèse avant la pause. C'est qu'un autre avantage aussi que les Russes publient en russe, c'est qu'en général, d'après mon expérience de voyageur, donc parfois donc en Russie, les livres de mathématiques en langue russe coûtent moins cher.
Oui, et en plus, c'était les meilleurs, il faut
c'était
le dire.
C'était les meilleurs. Ah, alors là, ma femme va être contente. Donc nous parlions du pouvoir créateur de la langue. Laurent Laforgue, donc vous estimez que pour que ce pouvoir créateur soit utilisé à bon escient, puisse en tout cas donc s'exprimer, il est bon que les mathématiciens, les scientifiques en général publient, donc s'expriment dans leur langue maternelle, cherchent dans leur langue maternelle. Et récemment, on a entendu parler de vous dans différents canaux dans les médias, on va dire, car vous estimez que aussi dans l'éducation, le pouvoir créateur de la langue est en danger, dans le sens où le système éducatif est fait de telle manière que peut-être les élèves parlent moins, maîtrisent moins la langue française.
Oui, et pas seulement. C'est-à-dire, bon, tout à l'heure, nous avons parlé à la fois de mathématiques, de recherche, de sciences, de langue, donc de la nécessité de pouvoir bien maîtriser sa propre langue ou d'autres langues éventuellement pour pouvoir être créateur dans un domaine scientifique. Et de tous ces points de vue, je suis vraiment inquiet et désolé, catastrophé par ce que je constate de l'état de notre système éducatif, du système éducatif français, ou d'ailleurs du système éducatif, de l'ensemble des pays occidentaux aujourd'hui. Hein. Donc c'est vrai que peut-être que le point le plus sensible pour moi, c'est le point de la maîtrise de la langue, donc pas seulement la langue parlée, mais également la langue écrite. Hein. Je constate simplement en regardant autour de moi, en interrogeant les jeunes, en interrogeant les professeurs, en lisant des témoignages de professeurs. Actuellement, je reçois énormément de témoignages depuis effectivement que les médias ont parlé de ma démission du Haut Conseil de l'Éducation un peu retentissante. J'ai reçu à ce jour plus de 700 témoignages, 700 messages de professeurs ou de parents d'élèves, dont la quasi-totalité sont en accord avec moi, mes positions sur l'éducation. Voilà, ce que je constate, c'est que la plupart des jeunes gens aujourd'hui arrivent, par exemple, au niveau du baccalauréat en maîtrisant mal leur propre langue, sans parler de langue étrangère. particulièrement pour eux, la langue écrite, la langue des livres, est souvent une langue étrangère. Et en mathématiques également, les jeunes arrivent au niveau du baccalauréat, donc en principe en ayant fait des mathématiques, surtout pour ceux de la filière scientifique, mais en fait en ne maîtrisant pas le raisonnement, la logique, en n'ayant pas été habitué ni à la précision, ni à la rigueur. Donc je suis très inquiet et face à cette situation, je ne rends pas du tout responsables les professeurs ni les instituteurs, mais je mets en cause les politiques qui ont été suivies par les ministères de l'éducation nationale successifs et plus généralement l'ensemble des instances dirigeantes de l'éducation nationale depuis quelques décennies.
Alors, de toute façon, sur le constat, je peux difficilement vous donner tort, puisque j'ai enseigné pendant 2 ans les mathématiques en collège. Donc, bon, effectivement, sur le constat, je ne peux pas dire grand-chose. Est-ce que vous pourriez être plus précis, d'après vous, sur les causes du problème? C'est-à-dire, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais je vais peut-être d'abord passer la parole à François Logiacomo.
Oui, alors, désolé d'arriver tard. Je n'ai pas tout entendu du début du débat parce que j'ai eu du mal à écouter la radio depuis ma voiture. Et alors justement, une des questions que je me pose, c'est si les problèmes que connaît l'enseignement dans différents pays d'Europe occidentale ne sont pas liés à l'évolution de la société et les problèmes concernant la langue à l'évolution de la langue. Une première remarque, c'est que la langue française est une des rares langues qui soit aussi qui refuse de manière aussi ferme les réformes de l'orthographe, puisqu'il n'y a pas eu en français de réformes de l'orthographe depuis bientôt 2 siècles, alors que dans beaucoup de langues, ces réformes sont plus facilement acceptées. Et on a vraiment l'impression en France que toucher à l'orthographe française, c'est détériorer le patrimoine de la France.
Non, mais pour ce qui est de toucher à l'orthographe, moi j'ai envie de vous rassurer au sens que aujourd'hui dans les écoles, malheureusement, on apprend peu l'orthographe. Par exemple, les professeurs dans les écoles ont des consignes précises pour ne pas tenir compte des fautes d'orthographe, par exemple dans les autres matières, ou même en français, les consignes de notation aujourd'hui ne sont plus du tout celle d'autrefois. À propos de l'orthographe, il y a une anecdote qui me revient, qui date d'il y a quelques jours. Je parlais dans l'institut où je travaille avec une dame qui est femme de ménage et qui habite dans un quartier difficile, un quartier populaire, un grand ensemble de la banlieue parisienne. Et donc elle me racontait qu'il y a quelques années, sa fille aînée allait à l'école primaire et elle avait constaté que sa fille aînée apprenait à écrire en orthographe phonétique. Alors elle a commencé à s'inquiéter, elle s'est aperçue que d'autres parents s'inquiétaient parce qu'ils faisaient le même constat en ce qui concernait leurs enfants. Donc ils ont fini par se regrouper entre parents et donc c'est un groupe de mères de famille, de milieux populaires, sont allés voir les instituteurs et les institutrices pour leur demander, écoutez, s'il vous plaît, apprenez l'orthographe à nos enfants. Et les instituteurs et institutrices ont dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est mieux d'apprendre d'abord en orthographe phonétique et puis ensuite les corrections se feront toutes seules et dans quelques années, vos enfants écriront normalement, avec l'orthographe.
L'orthographe phonétique en utilisant les symboles API ou
en écrivant n'importe comment. La promesse était que ça allait se corriger tout seul et puis quelques années plus tard, c'est-à-dire maintenant, cette dame constate que l'orthographe de sa fille ne s'est pas du tout corrigée. Ce qui a une conséquence très simple, c'est que les livres sont inaccessibles à sa fille. Sa fille ne peut pas lire, par exemple, la littérature. Elle ne peut pas lire le journal parce que tous les mots sont trop différents de la manière
dont elle les a abordées voilà, au premier voilà, de prime abord. En fait.
Voilà. Et alors, bien sûr, quand je dis ça, je répète ce que j'ai déjà dit, c'est pas les instituteurs, en l'occurrence les instituteurs et institutrices que je remets en cause, parce que bien sûr, si eux ont fait les choses de cette façon, ce n'est pas une initiative qu'ils ont prise d'eux-mêmes. Hein, c'est quelque chose qui leur a été inculqué en IUFM, en suivant des directives qui venaient d'en haut, qui justement venaient des instances dirigeantes de l'éducation nationale. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité très lourde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans les instances dirigeantes de l'éducation nationale, ont pensé, ont imaginé cette théorie brillante que d'abord il fallait écrire un peu n'importe comment, puis que les choses allaient se corriger toutes seules. Et ces gens se sont trompés. Et qui sont les victimes? Eh bien, ce sont ces enfants, donc, là, dans un milieu populaire, où les parents n'avaient pas la possibilité de reprendre derrière le travail de l'école. Et voilà, donc ces enfants sont coupés de la culture écrite. C'est extrêmement grave.
Oui, alors, effectivement, mais ce qui m'étonne un peu, c'est que, bon, il y a environ un peu plus de 25 ans, disons, André Martinet et toute une équipe ont lancé ce qu'ils ont appelé l'alphabet alphonique. Alphonique était une orthographe phonétique du français, mais avec des symboles courants, c'est-à-dire sans utiliser les symboles de l'alphabet phonétique international, qui sont effectivement trop compliqués pour l'usage des enfants. Et l'idée qu'ils...
Que je les ai appris au CE1, mais bon, c'est pas grave.
Oui, d'accord, mais enfin bon...
c'était des gens bizarres qui étaient...
Tout à fait, mais enfin, en plus, cet alphabet phonétique international a été conçu à une époque où on imprimait avec du plomb, donc on pouvait prendre un H et puis le retourner à l'envers pour faire une lettre, hein, et à partir du moment où on n'a plus eu cette technique-là, hein, faire les lettres de l'alphabet phonétique international devenait quelque chose de très compliqué. Moi, je me rappelle l'époque où il fallait commander des boules spéciales à Honolulu parce qu'ils étaient les seuls à faire des boules phonétiques qui permettaient de taper en alphabet phonétique international.
Mais moi, je vais écrire, oui.
Oui. Hein? Bon, maintenant, avec l'informatique, on commence, disons, à accéder un peu à tous les symboles, mais enfin, c'est quand même pas répandu dans tous les ordinateurs. Bref, eux voulaient un alphabet qui soit phonétique, mais qui utilise uniquement les lettres qu'on a partout, en se disant que c'était une première étape pour l'apprentissage de l'écriture et qu'après, disons, justement, les enfants apprendraient à écrire. Or, à ma connaissance, cet alphonique ne s'est jamais vraiment répandu. Donc, ça prouve qu'il y avait quand même une réticence à ça.
Hmm? Bah oui, mais encore, là encore, enfin, voilà une brillante idée. Disons, dans l'éducation nationale, on a déjà essayé beaucoup de choses. Moi, je trouve que on a fait tous ces essais et les résultats sont, enfin, à mon avis, catastrophiques. Malgré tout, qu'est-ce que moi j'attends de l'école? J'attends de l'école qu'elle donne aux enfants, puis aux élèves, aux adolescents, donc la maîtrise de la langue, qu'elle leur ouvre la culture écrite. Hein. Pour moi, l'école est un lieu qui est constitutif de l'humanité et constitutif de la liberté. C'est-à-dire que pour devenir un adulte libre, eh bien, on a besoin des mots. On a besoin des mots pour penser. Si on n'a pas les mots, on ne peut pas penser. Donc, on a besoin d'apprendre les mots, on a besoin de les maîtriser, on a besoin des conjugaisons, on a besoin de la grammaire. Et le rôle primordial de l'école, c'est d'introduire à la culture des livres, c'est-à-dire une culture qui est déjà constituée, un héritage qui, en France, est vieux d'un grand nombre de siècles, puisque notre langue est maintenant une langue vénérable, si on veut. Disons, je trouve que l'école aujourd'hui ne remplit plus ou qu'elle remplit mal ce rôle de transmettre cet héritage aux jeunes générations. Donc il ne s'agit pas du tout de les écraser sous cet héritage, il s'agit de leur transmettre, d'une part, les moyens de la pensée, hein, les moyens de la pensée libre, c'est-à-dire la maîtrise des mots, et d'autre part, les matériaux pour penser. Hein, parce que nous savons tous qu'il est très difficile d'avoir des idées originales. Par exemple, les deux mathématiciens autour de cette table savent que si déjà dans sa vie on a une idée vraiment originale, quelque chose que jamais personne n'a inventé, déjà c'est beaucoup en un sens. Donc pour penser, on a besoin de faire usage des idées des autres. Hein, et je pense que le plus grand stock d'idées, le plus grand stock de pensées disponibles, c'est la culture écrite. Et donc, pour devenir libre, eh bien, on a absolument besoin d'être mis en contact avec cette culture-là. Et donc, c'est cette chose qui n'a pas été fait pour ces enfants de milieux populaires dont je parlais tout à l'heure. Et voilà pour le principal grief que j'ai contre les politiques de l'éducation nationale depuis quelques décennies.
Ça ferait une très belle conclusion. Cependant, j'aimerais vous poser une dernière question avant qu'on passe au feuilleton, la station mystérieuse. Vous avez dit que, en tout cas souvent en milieu populaire, les enfants n'ont plus accès à la culture écrite. Je voudrais savoir si, avec l'introduction de plus en plus massive des ordinateurs dans les écoles, si l'Internet, l'intranet, enfin toute la communication, enfin tous les supports numériques de l'information ne proposent quand même pas donc aux jeunes, ne pourraient pas proposer donc aux jeunes des supports écrits dans une langue correcte.
Moi, je suis très réservé par rapport à l'usage des ordinateurs dans les écoles. En effet, les hommes politiques en France sont souvent tentés de se faire valoir en informatisant les écoles. Moi, je suis très réservé par rapport à ça, parce que je pense que malgré tout, le rôle de l'école n'est pas de transformer les enfants en utilisateurs de tel ou tel produit commerciaux. Hein, le rôle de l'école, c'est de les rendre autonomes, de les rendre capables de lire, d'écrire, hein, d'écrire d'abord et avant tout avec la main. Hein, quand ensuite on maîtrise très bien l'écriture à la main, peut-être que effectivement on peut passer à l'ordinateur. Mais vous voyez, si on se familiarise dès le début avec l'ordinateur, si on met des ordinateurs dans les mains des enfants trop tôt, si on les laisse tout le temps face aux ordinateurs, en fait, ils n'écriront jamais avec les mains de manière correcte. Et même vis-à-vis de l'ordinateur, ils ne seront pas si habiles que ça. Hein. D'ailleurs, là, je parle des enfants, mais je connais des adultes qui aujourd'hui sont devenus tellement habitués à taper tous leurs textes directement au clavier qu'ils ne sont plus capables d'écrire à la main. Hein. Là, je parle d'adultes qui, malgré tout, ont appris à la main quand ils étaient jeunes. Mais songez combien l'effet de l'ordinateur peut être plus puissant sur des enfants.
Oui, alors justement, là, c'est un sujet intéressant parce que Internet a quand même modifié considérablement notre accès à l'information, c'est-à-dire qu'actuellement, on trouve sur Internet des choses qu'avant, on ne pouvait trouver que dans des livres difficilement accessibles, il fallait aller en bibliothèque, et donc, hein, c'était toute une démarche que tout le monde ne pouvait pas faire. Donc, actuellement, hein, il est bon qu'à partir d'un certain moment, encore faut-il définir à partir de quel moment, les enfants apprennent à accéder, disons, à cette culture. Donc, ma fille, on lui demande un exposé sur Descartes et elle va chercher sur Internet ce qu'elle trouve sur Descartes. Bon, mais il y a un autre aspect, c'est que, d'une part, l'usage d'Internet a créé un autre usage de la langue qui n'est ni écrit ni oral. Jusqu'à présent, il y avait un usage écrit et un usage oral. Or, ce qu'on utilise sur Internet, en messagerie, etc., c'est un usage un peu intermédiaire entre les deux, parce qu'il n'est pas aussi relu et aussi soigné qu'une langue écrite, et ce n'est pas quand même de la langue orale. Donc là, il y a une évolution. Et la troisième chose, c'est que la plupart des gens ne savent pas bien taper sur un clavier d'ordinateur en utilisant tous leurs doigts. C'est quelque chose qu'on ne leur apprend jamais. Mmh. Donc, oui. Taper à la machine leur demande beaucoup d'efforts.
Est-ce que le clavier en lui-même est déjà correct, déjà bien conçu? Ça, on peut aussi débattre sur la question.
Sur ce point, je peux dire que je serais favorable à ce qu'à un certain âge, donc disons au collège, je ne sais pas exactement en quelle classe, on apprenne aux enfants, à tous les enfants, à taper avec les 10 doigts. Hein, je pense que ceci serait un savoir utile. Mais voyez, je le dis au collège. Hein, pour l'école primaire, à mon avis, il faut vraiment apprendre
à écrire. On passe déjà par la calligraphie.
Exactement. Même là vous parlez de calligraphie. Vous voyez, quelque chose qu'on ne fait plus du tout dans les écoles françaises, c'est simplement d'apprendre à écrire bien, avec une jolie écriture.
Hein, avec des anglaises, comme on dit.
Oui, aujourd'hui, là, enfin, quand on regarde les cahiers des enfants, là, bien souvent, on a l'impression que ce sont de vrais torchons parce qu'il n'y a plus du tout d'exigence à ce niveau-là. Et je pense que c'est dommage. Par exemple, un témoignage que j'ai eu de la part de professeurs, c'est que souvent dans les classes, ils constatent que les enfants donc originaires de pays asiatiques sont plus soigneux, beaucoup plus soigneux que les enfants français. Et l'une des raisons, ou peut-être même la raison, de cette différence, c'est que beaucoup de ces enfants originaires de pays asiatiques suivent des cours pour apprendre, par exemple, la langue chinoise, apprendre à écrire un certain nombre de caractères chinois, et là, ils doivent calligraphier. Hein. Oui. Et il y a d'autres pays dans le monde, par exemple la Russie dont on parlait tout à l'heure, où jusqu'à aujourd'hui, dans les écoles primaires, on apprend à calligraphier la langue. Hein, et je pense que ceci est une bonne chose. Hein, c'est une langue calligraphiée peut être extrêmement jolie.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc c'est à la fois une façon d'apprendre à être soigneux et en même temps c'est gratifiant pour soi-même. Et c'est une façon de montrer qu'on aime la langue. Et à partir du moment où on aime la langue, voyez, la calligraphier, ça veut dire qu'on prend soin d'elle. Hein. Donc c'est une marque d'attachement à cette langue et de manière générale, eh bien, à l'écriture. Hein. Et donc je pense pas seulement à sa langue, mais à toutes les langues.